On va commencer une série spéciale. Sur le mariage. Donc, tout le monde est prêt à recevoir la parole? On va faire notre déclaration qu'on aime faire. Je vous invite à prendre vos bibles entre vos mains. Si vous n'avez pas une bible, prenez la feuille que je vous ai donnée et on va faire cette déclaration. Voici ma bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais et pour éternité changé et transformé de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, depuis longtemps, j'ai eu hâte de partager ce message. Et c'est le mois de février, tout le monde pense à Saint-Valentin et là, qu'est-ce qu'ils appellent l'amour dans ce monde. Mais moi, j'ai à cœur depuis certains temps de faire une série sur comment dévoiler le mystère d'un mariage réussi. Et tout de suite, juste avant de commencer notre sujet, il y a un couple de choses que j'ai besoin de dire. On va parler des choses qui sont importantes, on va parler des choses qui sont pratiques, on va parler des choses qui sont profondes. Et des fois, il y a une tendance quand même pour les gens qui ne sont pas mariés, soit ils ne veulent pas se marier, ou ils ont déjà été mariés, ou ils ne s'intéressent plus au mariage, quoi que ce soit, de dire, mais... Bon, là, ça c'est une bonne chose pour les couples et ceux qui veulent se marier. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on va voir? Tout ce qu'on va dire ce matin, la semaine prochaine, pour tout le mois de février et même peut-être plus que ça, on va voir au fur et à mesure combien de temps ça va prendre. Tout ce que nous allons dire s'applique à chaque personne dans la salle. Et ça s'applique aussi à chaque personne qui n'est pas dans la salle. Si vous êtes membre de la race humaine, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui est important et ça s'applique à votre vie. C'est sûr qu'il y a certains éléments qu'on va voir, que vous allez voir tout de suite que c'est vraiment, ça, c'est vraiment une chose que les couples ont besoin de faire et d'agir et tout de suite. Mais il y a d'autres choses, vous allez voir tout au long de ces semaines que tout ce qu'on va dire, même si on parle spécifiquement d'une relation entre un homme et une femme, il y a une application à faire dans votre vie personnelle et qui va changer pas juste votre vie et votre famille, mais va changer le monde entier. C'est tellement important le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Dévoiler le mystère d'un mariage réussi. Et qu'est-ce qu'on va voir ce que c'est un mystère? La parole de Dieu dit même que le mariage est dans un sens un mystère. Et que nous allons voir ensemble comment dévoiler ce mystère. Moi, j'aimerais commencer aujourd'hui avec un texte en Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 18. Et ici... C'est vraiment à propos, et je pense que le timing est impeccable pour commencer cette série. Vous savez que même dans notre nation aujourd'hui, cette semaine, la semaine passée, je veux dire, il y a des choses qui ont été faites et qui sont en train de se faire. Ils veulent redéfinir même la définition du mariage. Il y a toute une question politique sur est-ce qu'on devrait garder la définition traditionnelle du mariage, que le mariage c'est entre un homme et une femme à l'exclusion de toute autre personne. Et aujourd'hui c'est tout un débat, c'est tout un combat même. Et je pense que c'est le 1er février, ils ont décidé de au moins laisser les personnes, les officiers élus de notre nation, c'est eux autres qui vont en parler, ils vont décider. Donc, c'était important pour vous qui êtes ici de faire connaître votre voix, votre opinion et d'écrire au ministre nécessaire et de vraiment partager qu'est-ce que vous croyez parce qu'eux autres sont élus pour vous représenter. Amen. Amen. Je vous dis pas quoi dire, mais la parole de Dieu peut vous dire quoi dire. Amen. Donc, mais là, comme je dis, on est dans une place où ils veulent redéfinir le mariage, une nouvelle définition. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire dans un sens? On veut voir c'est quoi la définition que Dieu donne au mariage. quand Dieu, le Créateur de l'univers, le Créateur de la race humaine, a défini le mariage, comment est-ce qu'il a défini? Qu'est-ce qu'il a dit? Et pourquoi est-ce qu'il est important de garder sa définition sans faire des compromis? Amen? Donc, on ne parle pas d'une chose qui est forcément qui est politique. On ne parle pas des opinions. On parle de la vérité qui est révélée dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord que tout ce que Dieu dit dans ce livre est vrai? C'est vrai. Et ce n'est pas à moi de juger la parole. C'est à moi de prendre la parole et laisser la parole me juger. Ma vie doit être conformée à la parole. On ne peut pas conformer la parole pour l'adapter à ma vie. Et c'est ça le problème dans la société aujourd'hui. Les gens veulent faire des changements à ce que Dieu a dit il y a des milliers d'années, et même des choses qu'il a dit avant la fondation du monde. Et ces choses-là ne peuvent pas être changées. Ils sont pour toujours et pour éternité établis dans les cieux. Et on ne peut pas, et on ne peut jamais changer la parole de Dieu. Genèse 2, 18 dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, c'est pas un adversaire, mais une aide, semblable à lui. » Verset 19, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » N'est-ce pas intéressant que quand Dieu a créé l'homme, et puis en verset 18, il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, on va faire une aide semblable à lui. » Et au lieu de faire tout de suite la femme, il a créé les animaux. Il a fait passer devant Adam tous les animaux, et Adam avait la responsabilité de nommer les animaux. Pourquoi? On va voir vraiment un peu plus à fond le pourquoi dans quelques minutes, mais on voit juste en général, c'est parce que Dieu voulait souligner dans le cœur d'Adam qu'il avait besoin d'une aide. Et à chaque fois qu'un éléphant passait devant lui, c'est comme, ouais, ça c'est magnifique, c'est beau, mais je ne peux pas vraiment avoir une relation avec un éléphant, hein? Hein, les singes passent devant lui, c'est comme, les singes, c'est merveilleux, mais on n'a pas trop de choses en commun. Hein, les oiseaux, les crocodiles, et n'importe quel animal qui est passé devant lui, je suis convaincu que qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il voulait vraiment réveiller en Adam le désir d'avoir une aide et une partenaire dans la vie. C'est pourquoi il a fait passer les animaux devant lui. Et finalement, après que tous les animaux soient nommés, Adam commence. Parce qu'au début, quand Dieu a créé Adam et a soufflé dans ses narines le souffle de vie, moi, je ne pense pas qu'Adam avait un sentiment qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a quelque chose dont j'ai besoin. Je crois qu'il était à 100% dans le shalom de Dieu. Rien de brisé, rien qui manque, n'est-ce pas? Mais Dieu va, dans un sens, créer un besoin dans le cœur de l'homme. Il va créer un besoin pour l'homme de ne plus être seul. Et on sait que c'est surtout dans le mariage que ce besoin peut être comblé, mais on peut voir que ce n'est pas juste un homme avec une femme non plus, mais juste en général, les êtres humains ont besoin d'être en relation avec les autres êtres humains. Il y a des personnes qui disent « j'aime les animaux plus que j'aime les êtres humains ». Je connais plusieurs comme ça, beaucoup comme ça en fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent des gens qui disent, moi je préfère les animaux, j'aime mieux être avec les animaux qu'avec les êtres humains, parce que les animaux me comprennent, les animaux me font pas mal, les animaux ne parlent pas dans mon dos. Et je sais hein, qu'il y a une tendance pour les gens, je crois, dans un sens, c'est une façon de fuir la réalité. Quand j'aime mieux être avec un chien qu'avec une personne, il y a un problème. Et je dis pas ça pour vous critiquer, parce que même moi, au moment donné, j'étais comme ça. Je m'en souviens, après que mon père a quitté la maison quand j'avais 9 ans, j'étais peiné dans mon cœur. Et moi et mon chien, Scuffy, on se promenait ensemble. Je paquetais des lunchs dans un sac à dos. On se promenait ensemble et je parlais à mon chien et je pleurais avec mon chien. Et on avait des conversations, mais lui, il parlait pas trop, par exemple. Mon père m'a déçu. Je l'aime. J'ai une bonne relation avec lui aujourd'hui. Beaucoup des choses ont été restaurées, mais il m'a déçu, il m'a blessé profondément. Mais je cherchais à combler un besoin. Donc, je cherchais même dans mon chien à avoir une relation, quelqu'un, une chose, une créature qui pourrait me soulager. Si vous comprenez cela? Mais c'est pas l'idéal, c'est pas le best, c'est pas qu'est-ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit en relation avec les autres êtres humains. Mais ici, on voit que Dieu a fait passer devant Adam tous les animaux, et puis, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21 dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. » Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Oh là là! » Non. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Vous voulez savoir c'est quoi la définition du mariage selon Dieu? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Juste donner une petite histoire que j'ai entendue. Hein? Il y avait quelqu'un qui avait un autre récit de Genèse qui n'existe pas vraiment dans la Bible et qui n'est pas vraiment juste pour vous dire, c'est pas vraiment inspiré de Dieu. Mais il a dit qu'un jour, le Seigneur est allé voir Adam, il a dit, « J'ai pris une décision, je vais faire une aide semblable à toi. Elle va être magnifique. Elle va être belle. Elle va être toujours, toujours jolie, même si elle se réveille à 4 heures le matin, et puis elle va toujours jolie. Elle va être là pour préparer tes repas, toujours tout ce que t'aimes, toujours attendre, toujours chaud. Ça, elle va être là pour faire les lessives pour toi. Elle va être là pour te masser le dos, masser tes pieds quand tu arrives du travail. En fait, si tu ne veux pas aller au travail, elle va aller travailler pour toi. Laisse-moi te dire, elle va être quelque chose de spectaculaire. Elle va seulement parler quand tu veux qu'elle parle. Elle va toujours être en accord avec toi. Elle va toujours dire oui, 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 c'est exactement qu'est-ce que j'ai pensé. Et Adam est comme, oh! Combien est-ce que ça va me coûter? Le Seigneur dit, ça va te coûter deux bras et les yeux de la tête. Il a dit, ah ouais, mais qu'est-ce que je peux avoir pour un côte? Non, non. C'est un joke, hein? C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais on a besoin de rire un peu parce qu'on va être pas mal sérieux plus tard. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est la définition du mariage. Amen. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu dit à propos du mariage. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. On va parler de ça dans une autre semaine, l'importance de l'intimité. Les pharisiens, il y a un autre verset, par exemple, que je trouve c'est intéressant. Jésus a cité ce verset quand il parlait avec les personnes religieuses. Parce que qu'est-ce qu'on veut voir, c'est qu'aux yeux de Dieu, le mariage est primordial. Le mariage, c'est pas une chose comme... C'est bien si tu veux, c'est correct si tu veux pas, c'est pas si grave que ça. Le mariage, aux yeux de Dieu, est primordial. C'est une des choses les plus importantes dans la pensée et dans le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu du mariage. Et c'est pourquoi je dis, même si vous n'êtes pas marié, vous voulez jamais être marié, vous avez déjà été marié, ou quoi que ce soit, votre état aujourd'hui, célibataire, marié, divorcé, veuve ou veuve, dans n'importe quel état que vous vous trouvez aujourd'hui, il est essentiel pour vous d'avoir la conviction dans votre cœur que, aux yeux de Dieu, le mariage est important. Et que c'est pas juste votre mariage qui doit être protégé, mais le mariage en général. Le principe du mariage a besoin d'être protégé. Et si Jésus, il parle avec les pharisiens, il dit, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier, ou on peut dire divorcer, sa femme pour un motif quelconque? Et répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Tout le monde dit l'homme et la femme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce ou de la répudier? Écoute bien la réponse que Jésus a donnée. Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et ça, c'est la phrase clé. Au commencement, tout le monde dit au commencement. Le plan originel de Dieu est le plan éternel de Dieu. On a toujours besoin de revenir au commencement. Au commencement, l'homme était sans péché. Au commencement, l'homme était dans le jardin et il ne manquait de rien. Au commencement, l'homme était en communion avec Dieu, en communion avec son épouse, et l'homme était en communion aussi, dans un sens, avec la terre. Il avait besoin de travailler la terre, mais la terre n'était pas maudite. Il avait tout ce qu'il avait besoin, même avec abondance. Et ça, c'était la volonté de Dieu pour Adam, et c'est toujours la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Le premier Adam a perdu qu'est-ce que Dieu lui a donné. Mais le deuxième Adam, Jésus, est venu pour restaurer tout ce que le premier Adam a perdu. Donc, c'est-à-dire que, oui, on voit que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné le droit, il a permis aux hommes de répudier leurs femmes, de divorcer leurs épouses. Pourquoi? À cause de quoi? La dureté de leur cœur. Parce qu'ils étaient les hommes qui n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'étaient pas les nouvelles créations en Jésus-Christ. Ils étaient les hommes qui vivaient sous l'ancienne alliance. Ils avaient les cœurs de pierre. Ils étaient durs dans leur cœur. Mais quand un homme vient à Jésus et son cœur est renouvelé et né de nouveau, quand il devient une nouvelle créature et l'amour parfait de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit, un homme n'a plus d'excuses pour répudier sa femme. Et laisse-moi vous dire une chose. Je viens d'une famille brisée. Presque tous mes oncles et mes tantes sont divorcés. Je ne peux même pas compter les membres de ma famille qui ont vécu le divorce. Et la réalité, la dure réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, la plupart des personnes ne se marient même pas. Ou s'ils se marient, on sait que le taux de divorce est tellement élevé, même plus que 53%. Donc, je ne suis pas en train de pointer les doigts. Je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Tout ce que nous avons fait dans le passé est sous le sang de Jésus. Amen? Amen. Mais des fois, on a honte d'en parler parce qu'on a peur de peut-être mettre certaines personnes mal à l'aise ou de blesser certaines personnes. Mais moi, je pense qu'on fait une erreur quand on refuse d'en parler. Parce que on fait tort à ceux qui ont besoin de recevoir la guérison, qui ont eu des échecs, qui ont eu des relations brisées. Et souvent, c'est pas de leur faute, c'est l'autre personne aussi. Je sais, il y a des personnes qui ne veulent pas. Mais si un homme ou si une femme quitte sans demander la permission de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On vit avec les conséquences, n'est-ce pas? Donc, je suis conscient, je veux être sensible qu'il y a beaucoup de blessures qui ont besoin d'être guéries. Mais en même temps, je pense à ceux qui sont blessés, mais je pense à nos enfants et à leurs enfants. Et je pense aux futures générations. Et si on n'élève jamais le standard, si on ne dit jamais qu'il y a un autre moyen de vivre, On n'est pas obligé de vivre comme papa et maman ont vécu ou comme grand-maman et grand-papa ont vécu. On peut suivre les standards que Dieu a établis. On peut bâtir les vies et les relations qui sont stables, qui vont durer. On peut avoir les mariages qui sont vraiment bâtis sur le roc et on peut réussir les mariages. Si on ne dit jamais aux enfants que c'est possible, on fait tort à la prochaine génération. Donc, c'est à nous de se repentir pour nos péchés, de recevoir la guérison pour les torts que nous avons subis, même involontairement, et de dire, Seigneur, aide-nous à être un exemple et d'élever un standard pour la prochaine génération. Amen. Vous êtes là? Alléluia. Mais Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, c'était à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, qu'est-ce que je vois? Je suis toujours convaincu. Si deux personnes sont nées de nouveau, sont sous la nouvelle alliance, et ils ont eu le cœur pierreux remplacé par un cœur de chair. Est-ce que vous êtes là? Deux personnes nées de nouveau. Deux personnes qui ont reçu l'amour de Dieu répandu dans leur cœur, ces deux personnes peuvent, s'ils veulent, faire marcher le mariage. Il n'y a aucune excuse. Beaucoup de raisons pour dire, oh, oublie ça. Fermez le dossier, on commence quelque chose d'autre. Beaucoup de raisons, mais jamais d'excuses. Je dis, si deux personnes sont nées de nouveau, ils peuvent. Est-ce qu'ils vont? Des fois, une de ces personnes va choisir de ne pas le faire. Et l'autre personne doit vivre avec les conséquences. Amen? Et le Seigneur est capable de quand même bénir cette personne. La personne n'est pas condamnée pour le restant de sa vie de vivre une vie de deuxième classe. Amen? Et je ne suis pas en train de dire qu'une personne ne peut jamais se remarier, quoi que ce soit. Mes parents sont remariés, et dans le Seigneur, ma mère n'était pas chrétienne quand elle était divorcée, mais elle est mariée maintenant avec un homme de Dieu, et ils ont un bon mariage, béni par Dieu. Amen. Donc, faisons attention parce que la religion va dire, une fois divorcé, vous êtes condamné pour le restant de vos jours, vous ne pouvez jamais avoir une vie normale. Ce n'est pas vrai. Pourtant, il y a un autre fossé à l'autre côté de la rue où on voit dans les églises de Jésus-Christ que les gens ne prennent pas assez au sérieux le mariage établi par Dieu. Et ils vont dire, ah bon, c'est pas grave, ça marche pas, on va juste changer de femme comme on change une auto. Et ça, laisse-moi vous dire, c'est grave, c'est sérieux, pas juste pour vous, pour votre famille, mais c'est sérieux pour le corps de Christ, et c'est sérieux pour la race humaine, c'est dangereux. Vous mettez en péril la race humaine, quand on pense comme ça. Donc, regardons bien. Il a dit, au commencement, c'était pas ainsi. Donc, pourquoi est-ce qu'il est si important pour nous de mettre l'accent sur le mariage? Moi, je vais vous donner quatre choses, juste vite, vite, dans vos notes. Je veux que vous notiez ces choses. Premièrement, Dieu nous donne le commandement. Ce n'est pas la suggestion, mais le commandement d'honorer le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, c'est-à-dire la relation sexuelle dans le mariage, exemple de toute souilleur, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, que le mariage, que l'institution, que le principe du mariage soit honoré de tout le monde. Quand on va honorer quelque chose, on a une révérence devant la chose. Comme j'ai vu une personne parler de l'importance de l'honneur, une fois, il faisait une conférence avec des milliers de personnes dans une salle. Il est arrivé avec un violon qui valait plus que 200 000 $. Il expliquait à tout le monde la valeur du violon. Il a dit, bon, je veux que chacun de vous ayez l'occasion d'avoir ce violon entre vos mains. Il y avait une grosse foule. Il a donné le violon. Et à chaque fois que quelqu'un recevait le violon, c'était comme, wow. Et doucement, gentiment, ils ont passé à la prochaine. Personne n'a dit, hey, vous, attrapez. C'est comme, wow. Et Dieu dit que le mariage soit honoré. Je pense qu'on devrait voir l'union entre un homme et une femme dans le Seigneur et on devrait dire, « Wow, ce que Dieu a joint, qu'aucun homme ne sépare. » C'est une chose sainte. C'est une chose sainte. Et Dieu nous donne le commandement que le mariage soit honoré de tous les hommes. On va voir pourquoi dans quelques minutes. Deuxième raison pour laquelle aussi qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le mariage, c'est que le mariage est le fondement d'une société saine. Je suis sûr et certain de cela. On peut regarder dans l'histoire, il y a des cultures au complet qui ont été détruites, qui n'existent plus aujourd'hui. Des empires qui existaient autrefois, qui étaient forts, qui avaient de l'influence dans ce monde, ces empires qui n'existent plus aujourd'hui. Et la raison pour laquelle ils n'existent plus, c'est parce que ils se sont laissés attaquer à la racine, au fondement, c'est-à-dire au niveau de la famille et le mariage. Et quand le fondement de la famille traditionnelle, on pourrait dire, est disparu, il ne reste plus rien pour tenir la société. C'est tellement important. Moi, je suis sûr et certain que l'espérance de ce monde, c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Et l'espérance de l'Église de Jésus-Christ, c'est les familles en santé. Et l'espérance des familles en santé, c'est les mariages en santé. Si on n'a pas de bon mariage, on peut pas avoir. C'est difficile d'avoir une bonne famille en santé si les mariages sont malsains. Et si les familles ne sont pas en santé, les églises ne sont pas en santé, si les églises ne sont pas en santé, ce monde est perdu. Est-ce que vous êtes là? Et une autre raison pour laquelle il faut mettre l'accent sur le mariage, c'est que Dieu se sert du mariage pour bénir son peuple. Le mariage doit être honoré, respecté. On devrait avoir une révérence pour le mariage, mais ce n'est pas juste pour le bien-être de la société, mais c'est pour notre bien-être aussi. C'est une bonne chose d'être marié. C'est pas pour tout le monde. Même Paul, l'apôtre, a choisi de ne pas être marié pour mieux servir le Seigneur. Dans son cas, lui, il avait une grâce pour rester célibataire. Et il y a des personnes qui sont appelées à être célibataires. Et ils sont pas les personnes de deuxième classe non plus. Mais la plupart des hommes et femmes sur la terre ne sont pas doués pour rester célibataires. La plupart des gens ont besoin d'avoir cette aide semblable que Dieu a préparée. Et c'est pourquoi même la Bible dit en Proverbe 18, 22, « Qui trouve une épouse, trouve le bonheur, et c'est une faveur que l'Éternel lui accorde. » Si vous trouvez une épouse, pas n'importe quelle, parce que vous lisez les Proverbes, vous voulez une femme de Proverbe 31, pardon, et pas un Proverbe 5, hein? Il y a des femmes flatteuses et leur porte mène au séjour des morts. Il y a d'autres femmes, une femme vertueuse qui est comme une couronne pour son mari. Ce n'est pas n'importe quelle femme, mais si vous trouvez la bonne femme qui aime le Seigneur, qui est vraiment dévouée au Seigneur, et c'est la même chose pour les femmes, si vous trouvez le bon mari. Il y a des personnes qui sont en amour avec l'idée d'être en amour. Il y a des gens qui sont en amour avec l'idée d'être mariés et ils vont prendre n'importe qui. « Ah oui, il va faire. »« Oh oui, elle va faire. » »« En tout cas, je n'ai pas beaucoup de choix. Il va faire. » Non, non, non. Moi, je suis sûr et certain que Dieu a la bonne personne pour vous. Amen. Mais c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Et ça vaut la peine d'attendre, c'est nécessaire. Quatrième raison pour laquelle il faut mettre l'accent sur le mariage, c'est que le mariage joue un rôle indispensable dans la rédemption de la race humaine. Et c'est là où on veut camper un peu aujourd'hui. Je veux que vous voyez que le mariage chrétien joue un rôle indispensable dans la rédemption, on peut dire le salut de la race humaine. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a 6 milliards de personnes sur la planète aujourd'hui et que plus que la moitié n'ont jamais entendu le nom de Jésus? Et si ces personnes meurent, si ces personnes entrent dans l'éternité sans connaître Jésus, selon la parole de Dieu, ils sont perdus pour l'éternité. Quand nous avons tous péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, on a besoin d'être sauvés, on a besoin de connaître Dieu, on a besoin de recevoir Jésus. Mais qu'est-ce que je veux que vous voyez? C'est que le mariage, c'est un des outils les plus importants que Dieu a choisi pour atteindre et évangéliser les nations et le monde entier. Que si nous n'avons pas des mariages forts, inébranlables, qu'il y a des pays qui vont périr, il y a des personnes qui vont périr, et il y a des gens qui vont rester à l'enfer pour l'éternité parce que les mariages n'ont pas été honorés. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est un peu sérieux, n'est-ce pas? On va parler de beaucoup de choses dans les semaines à venir. On va parler des choses pratiques, comment rencontrer les besoins de votre conjoint. On va être terre à terre. Mais aujourd'hui, comme introduction, vraiment souligner l'importance du mariage, que le mariage doit être honoré de tous. Parce que c'est un commandement, parce que c'est vraiment la base d'une société qui est saine, parce que c'est vraiment une source de bénédiction pour nous, mais parce que c'est une source de salut pour le monde entier. On va voir pourquoi. Éphésiens chapitre 5. Regardons Éphésiens 5. Tout le monde est là? Éphésiens 5, 22 dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris et n'ayez pas peur, mesdames. » On va voir plus tard que la soumission est une bonne chose quand on est avec la bonne personne. La soumission, c'est volontaire. Ce n'est pas une chose qu'un homme peut exiger. Ce n'est pas à l'homme de dire, « Femme, tu es supposée de te soumettre à moi. » C'est volontaire que la femme dit, « Mari, je me soumets à toi. » OK? « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Mais voici verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. » C'est facile pour une femme d'être soumise à un homme qui est prêt à mourir pour son épouse. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et encore, il va citer le verset qu'on a lu au commencement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la définition du mariage selon Dieu. Mais prochaine chose, verset 32. Ce mystère est grand. Ô Père Céleste, aide-nous ce matin. Ce mystère est grand, mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ce mystère est grand. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir? C'est que le mariage chrétien est un mystère. Et moi, je ose dire que 99% de nous dans cette salle aujourd'hui, on a à peine commencé à comprendre la signification du mariage. Et si vous pensez qu'être marié, c'est juste une question d'avoir une personne du sexe opposé qui va partager le même lit avec vous, qui va manger à la même table que vous, qui va faire des loisirs de temps en temps avec vous et qui va chicaner avec vous, vous n'avez pas du tout compris c'est quoi le mariage. Le mariage entre un homme et une femme nous révèle le mystère de Christ et son Église. Et plus on connaît la réalité que, tout ce que je fais ici sur la terre, c'est en parallèle à ce que Dieu a fait avec moi et ce qu'il fait actuellement avec son Église, plus ça va fortifier votre mariage sur la terre. Et plus votre mariage sur la terre est fortifié, plus les gens de ce monde vont être capables de comprendre. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'image du Créateur. Je comprends. Donc, plus vous comprenez Christ et l'Église, plus votre mariage va réussir. Et plus vous réussissez, plus vous avez de la réussite dans votre mariage, plus ce monde va être convaincu que Jésus est vivant.
Amen.
Donc encore, c'est tellement important. Et savez-vous que le diable, il est à l'œuvre, il est à l'attaque, il attaque le mariage comme jamais auparavant. Juste au point où maintenant, comme j'ai dit, dans notre pays, on commence à questionner. Est-ce qu'on peut vraiment dire, qui est-nous pour dire que le mariage doit être entre un homme et une femme? Pour qui est-ce qu'on se prend? Est-ce qu'on a le droit de dire que les autres personnes n'ont pas le droit de se marier? Et là, la définition du mariage est attaquée aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que parce que le diable ne veut pas que les hommes et les femmes soient heureux? Non. C'est pas parce que le diable veut juste voir Jean-Pierre et Joséphine en train de se chicaner dans la cuisine. C'est pas juste parce que le diable dit, ah bon, c'est du fun de voir que Jean-Pierre il dort sur le divan et pendant une semaine de temps parce que Madame n'est pas contente. Non, c'est parce que le diable, il a une stratégie. Et son but, c'est pas juste détruire. Non, non, détruire les mariages, ça lui fait plaisir parce que ça l'aide à atteindre ses objectifs. Et l'objectif du diable, c'est pas vous. Il n'est pas juste fâché avec vous. L'objectif du diable, c'est d'atteindre le cœur de Dieu et de défamer l'image de Dieu sur la terre. Je veux que vous compreniez cela. Satan veut montrer à tout le monde que Dieu n'est pas qui il dit qu'il est, qu'il n'est pas digne de confiance, qu'il est menteur et qu'il ne peut pas garder sa parole. Satan est fâché parce qu'il a dit, « Je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. Je vais. Je vais m'exalter. » Dieu a dit, « Ah, ah, non, non. » Il était expulsé du ciel. Mais c'est quoi que le diable veut plus que toute autre chose? Il ne nous aime pas, c'est sûr, parce qu'on lui fait penser au Créateur, parce qu'on est fait à son image. Mais en réalité, qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut défamer l'image et le nom de Dieu sur la terre. Et la façon qu'il le fait, c'est en détruisant la relation entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une question de sexualité, c'est une question du caractère et la nature de Dieu. Et il faut que vous compreniez, nous sommes les êtres spirituels, d'abord, humains, physiques et sexuels, après. Amen? Donc, regardons bien. Intéressant. On voit en 2 Corinthiens 11, 2, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, on voit que l'Église est comparée à une vierge pure qui va être présentée à Jésus qui est le mari ou l'époux. Amen. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est qui l'épouse de Jésus-Christ? C'est l'Église. Amen. Donc, des fois, les femmes sont un peu offensées parce qu'on parle du fait que vous êtes les fils de Dieu. Mais ne soyez pas offensées, il faut que je sois une épouse, OK? Vous êtes un fils, je suis une épouse, correct, OK? Mais on est l'épouse de Jésus-Christ, l'Église. Et on voit ici que qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer entre Jésus-Christ et son Église est supposé d'être manifesté ici sur la terre dans le contexte du mariage chrétien entre tout ce qui se passe entre moi et mon épouse. Tout ce que je fais avec Tania est supposé de représenter et de démontrer au monde entier comment le Seigneur Jésus agit avec son épouse, l'Église, et comment l'Église va réagir et agir avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je fais, il est important. Parce que le monde a besoin de voir. Comment est-ce que vous pouvez décrire à quelqu'un qui n'a jamais vu un arbre, qu'est-ce qu'un arbre a l'air? C'est difficile, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a jamais vu une télévision décris ça, essaie d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu une télévision, c'est quoi une télévision. Ils ne savent pas, c'est difficile. Ils ont besoin d'une image, ils ont besoin de quelque chose, un symbole. Et là, ils vont commencer à comprendre. Et c'est ça que le mariage fait ici sur la terre. La définition de mariage encore, c'est qu'un homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa femme et va s'unir à son épouse. Mais je veux que vous voyez encore le parallèle. Un homme va quitter son père et sa mère. Jésus a dit, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Jésus-Christ, il était au paradis avec le Père. Il avait la gloire avec le Père. Il avait tout ce qu'il avait besoin avec le Père. Mais il a dit, « Je vais quitter le Père et j'ai une mission. Je vais aller chercher mon épouse et je vais revenir avec. » Donc, on voit ici que c'est la même chose. Nous avons besoin, les hommes dans l'Église aujourd'hui, c'est naturel, c'est normal pour un homme de vouloir quitter son père et sa mère et d'aller trouver son épouse. C'est normal, c'est naturel. C'est une bonne chose et on devrait l'encourager. Je trouve cette valeur qu'aujourd'hui, on n'encourage pas les personnes de se marier. On dit « attends ». Autrefois, les gens se mariaient même jeunes. Et je pense que si on avait des familles, des foyers plus sains, les personnes pourraient se marier plus jeunes, aujourd'hui. Et ils pourraient éviter toutes sortes de problèmes. Mais regardons bien, on va continuer. Un homme doit quitter son père et sa mère comme le Seigneur a quitté les cieux. Un homme doit s'attacher à sa femme. Et j'ai étudié ce mot « s'attacher », c'est intéressant parce que cela signifie aussi de poursuivre, d'atteindre et de se joindre à. C'est quelque chose, hein? Adam s'est fait endormir. Quand il s'est réveillé, il manquait quelque chose. Un côte. Et maintenant, la plupart des gars, ils vont aller à la recherche. C'est où mon côte, hein? Je vais trouver mon côte. Il faut que je la trouve, hein? Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne cherchent pas dans la bonne place. Amen. Il y a un équilibre parce que le Seigneur a fait venir Ève à lui aussi. Mais quand même, on voit qu'il y a une poursuite qui est saine et normale. Une passion consacrée que chaque homme devrait avoir. C'est normal pour un homme de vouloir trouver une aide semblable à lui. C'est une bonne chose. Le problème, c'est quand il utilise les moyens qui sont malsains pour aller poursuivre des femmes. Il y a des personnes qui vont chasser les femmes et leur but n'est pas correct. Quand vous allez chercher votre côte, sachez que qu'est-ce que vous cherchez? C'est une personne qui va vous compléter et avec qui vous allez pouvoir rendre témoignage au monde entier de l'amour et la fidélité de Dieu. Amen. Encore, c'est votre mission, c'est pas juste, « Oh Seigneur, je veux me marier pour être heureux, pour être béni, pour avoir quelqu'un au lit avec moi. » Mais mon but, c'est de faire ta volonté, d'être complet, d'être vraiment une seule chair avec quelqu'un. Et ensemble, on va pouvoir créer un foyer, une famille qui va être une lumière dans ces ténèbres, qui va être un témoignage à ce monde pourri. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je sais que c'est aujourd'hui un peu, on pourrait dire, théorique dans un sens. On va voir dans les semaines à venir, ça va être très terre à terre, mais il faut que vous saisissiez le principe spirituel en arrière du mariage. Le mariage, ce n'est pas juste pour votre bonheur. Le mariage est pour votre bonheur, mais aussi pour le salut des nations. Regarde. Jean 19, 34 a dit, un homme doit s'attacher à sa femme. Luc 19, 10 dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On voit que Jésus, quand il a quitté le ciel, il est venu à la recherche, il était vraiment en train de poursuivre son épouse. Et quand il a atteint, il s'est attaché à elle. Il a donné sa vie pour elle. Il a versé son sang pour elle. Donc vous, monsieur, quand vous pensez aller à la recherche et aller chasser votre côte, soyez prêt à mourir pour elle. Sinon, vous êtes un chasseur égoïste. Amen. Si votre but, c'est juste d'aller chasser et vous regardez les femmes comme une proie, comme quelque chose que vous allez, comme un chasseur à la chasse, bon, j'ai pris une femme cette semaine, je la mets en arrière du camion, on y va, on va chercher une autre. Hey, est-ce qu'on peut parler comme il faut ce matin? Ça, ce n'est pas du tout l'image que Dieu nous donne du mariage. L'image que Dieu nous donne, c'est un homme fidèle qui va à la recherche. Il est en train de poursuivre. C'est comme la mademoiselle qui est en détresse, qui est prisonnière dans le château. Et le chevalier arrive pour la libérer. Mais il y a quand même un côté de honneur, un côté de respect, un côté de révérence. C'est comme, là, j'ai trouvé mon côte. Et je vais la protéger. Juste un. Pas besoin de 10 côtes. Le Seigneur a pris un côte. J'ai besoin d'un côte pour le remplacer, c'est tout. Un seul, proche de mon cœur. Amen. Donc, on continue. Intéressant quand on parle du côte, parce qu'on voit en Genèse que Dieu a pris une de ses côtes et renfermé la chair à sa place. Mais regarde dans Jean 19, 34, on sait que Jésus clouait à la croix. Au moment donné, il y a un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et de la même façon que Dieu a pris d'Adam un côte et a formé la femme, on voit que Jésus est percé dans le côté, et que de son côté, le sang et l'eau coulent, et qu'il donne naissance à son épouse. Dieu a pris du côté de Jésus l'Église. Amen. Vous voyez, il y a toutes sortes d'images quand on pense à ça. Jésus a quitté, un homme doit quitter son père et sa mère, Jésus a quitté les cieux. Il doit s'attacher, poursuivre, atteindre et s'unir avec sa femme. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ils ont même percé son côté. Et les deux vont devenir une seule chair. Et quand on parle de devenir une seule chair, les personnes pensent sexe et physiquement, et ça fait partie de notre union en tant qu'homme et femme dans le mariage. On est supposé d'être unis physiquement, mais le physique, c'est après le spirituel et l'émotionnel. Et dans le même sens, on voit Jésus en Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Jésus a quitté les cieux. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a versé son sang et de son côté, le sang a coulé et Jésus a pu former son épouse, l'Église de Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes devenus une seule plante avec Jésus-Christ. Il est en moi, je suis en lui et nous sommes inséparables. Rien ne peut me séparer d'avec l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer d'avec l'amour de Dieu. Et je le comprends maintenant. Mais pour moi, d'être capable d'aider le monde à comprendre cela, vous savez, la meilleure image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Et le monde aujourd'hui a besoin de voir cette même image. De quitter son père et sa mère, de s'attacher à sa femme et de s'unir à son épouse et de vivre en harmonie, de vivre en paix et de vivre dans l'unité totale et complète. Le monde a besoin de voir cela dans nos foyers chrétiens. Ils ont besoin de cela. En fait, on va juste terminer avec ceci, que le mariage dévoile le mystère de trois choses en fait. Trois choses que le mariage va dévoiler et montrer au monde. Premièrement, c'est l'image de Dieu. Le mariage dévoile l'image de Dieu. Le monde a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu a l'air. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Le monde a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu a l'air. Et il est impossible, si le monde me voit seul, ils ne peuvent pas voir tout ce que Dieu a l'air. Tania, peux-tu... Non, tu restes là, mais... S'ils voient juste mon épouse, ils ne peuvent pas voir tout ce que Dieu a l'air non plus. Mais quand je viens et je m'attache avec mon épouse et je vis en harmonie avec mon épouse. Et les deux ensemble, le monde peut voir une image complète du caractère et de la nature de Dieu. Il y a même des personnes qui croient, et là je ne suis pas dogmatique là-dessus, que Dieu a dit on va créer l'homme, les a créés hommes et femmes, mâles et femelles. Qu'au début, Adam, quand Dieu a créé Adam, il a soufflé en lui le souffle de vie. Que Adam avait comme en lui toutes les caractéristiques de Dieu. Les caractéristiques mâles et les caractéristiques femelles. Parce que des fois, les personnes vont dire, mais Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Dieu a des caractéristiques mâles, mais Dieu aussi a des caractéristiques femelles. El Shaddai, c'est un des noms de Dieu, veut dire celui à plusieurs scènes. Et on voit que l'image d'une mère qui prend soin et qui va allaiter et qui va nourrir sa famille et ses enfants. Dieu est à la fois mâle et femelle dans ce sens-là. Il a des caractéristiques d'un mâle et les caractéristiques d'une femelle. Et quand Dieu a fait endormir Adam, il a pris en côté, il a pris de Adam toutes ses caractéristiques qui étaient, on pourrait dire, femelles. Et là, il n'était plus complet. Il a mis toutes ces choses en Ève. Et c'est pourquoi, juste un homme seul, ça donne la moitié d'image. Juste une femme, ça en donne l'autre moitié. Deux hommes ensemble, ça donne deux fois la moitié. Et même pas là. Deux femmes ensemble, soyez pas fâchés. Je sais. Aujourd'hui, c'est dangereux, même moi, de dire qu'est-ce que je dis. On aime tout le monde. On n'a pas de la haine. Mais la réalité encore, quand on parle de ces choses-là, ce n'est pas une question juste de sexualité, c'est une question de l'image de Dieu. Et qu'est-ce qui est sous l'attaque aujourd'hui? Ce n'est pas une question du mariage hétérosexuel ou homosexuel. Non, 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 c'est l'image de Dieu. Et qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut tordre et défaire l'image de Dieu. Pour que la société n'a aucun point de référence. Pour que quand on dit « Dieu est un bon père », c'est quoi son père? Dieu prend soin de nous comme une mère prend soin de ses nourrissons. Mais je ne comprends pas, je n'ai jamais vu ça. Il veut que le monde soit dans l'impossibilité. C'est comme décrire à une personne qui n'a jamais vu un arbre, qu'est-ce qu'un arbre a l'air? Comment est-ce que le monde est supposé de voir qu'est-ce que Dieu a l'air? S'il ne voit jamais hommes et femmes ensemble. Donc l'image de Dieu est sous l'attaque aujourd'hui. Et on a besoin d'être préservés. Amen. En fait, regarde bien. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent et rasent au sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Mâle et femelle. Donc l'image de Dieu n'est pas complète avec juste l'homme. Ce n'est pas complète juste avec la femme. Il les a créés à l'image de Dieu, mâle et femelle, ensemble, l'homme dans toute l'image. Amen. Et c'est ça qui est sous l'attaque aujourd'hui. Le diable, il est rusé. Il veut tellement que le monde soit dans la confusion de qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a l'air? Donc pensez pas que c'est politique. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question d'une guerre spirituelle. L'ennemi est à l'œuvre pour défaire et tordre l'image de Dieu. Une autre chose que le mariage va dévoiler, c'est l'amour infini de Dieu qui surpasse toute compréhension. On voit cela, et on va parler de ça dans les semaines à venir. Éphésiens 5, 25 dit, « Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. » Quand le monde voit les maris qui sont prêts à donner leur vie pour leur famille, les maris qui sont vraiment prêts à donner leur vie pour leur épouse, pour leurs enfants, le monde va voir, Jésus est vraiment en vie.
Amen.
Amen. Puis, troisième chose que le mariage va dévoiler, c'est la puissance et la profondeur d'une alliance avec Dieu. Comment dire une alliance? Quand on se marie, on échange quoi?
Alliance.
Une alliance. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans une alliance? deux personnes viennent ensemble et disent, tout ce que je suis et tout ce que j'ai maintenant t'appartient.
Amen.
La personne dit en retour, tout ce que je suis, tout ce que j'ai t'appartient. Nous ne sommes plus deux, nous sommes un. Dans l'Ancien Testament, ils échangeaient les armes, ils échangeaient, tout, ils faisaient même une... Le blanc est rempli, mais on est loin d'être terminé. J'ai encore des choses, donc écoutez bien. C'est important parce qu'on va, dans juste deux minutes, on va prendre le repas du Seigneur. Et ça va de pair avec tout ce qu'on a dit ce matin. Mais ils faisaient des échanges. Quand on fait une alliance, on coupe une alliance. Souvent, les personnes prenaient un animal, coupaient l'animal en deux, il y avait du sang qui coulait. Et puis, ils faisaient les échanges des vœux. Tes ennemis sont mes ennemis, tes amis sont mes amis. Même deux hommes faisaient des alliances. Jonathan et David faisaient des alliances. Ce n'était pas un mariage, mais ils faisaient une alliance. Ils ont échangé les noms. Aujourd'hui, au Québec, il est illégal, on pourrait dire, pour une femme de prendre le nom de son mari. Et encore, je comprends le pourquoi ils ont fait cela. C'est pour faciliter les choses bureaucratiques. Mais encore, les personnes sincères, mais sans instruction, encore, ils ont défait le fondement du mariage. C'est plus deux personnes qui deviennent une seule chair. C'est deux personnes qui vivent un à côté de l'autre. Ils vivent ensemble, mais c'est quand même deux individus. Oui, on est des individus, mais Tanya et moi, on est plus que des individus. Nous sommes un. Elle porte mon nom. Jésus, maintenant, laisse-moi vous dire, il est la tête de l'Église. Nous, l'Église, l'épouse, nous sommes son corps. Et je porte son nom. Je porte le nom de mon mari. C'est pourquoi Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains sur les malades. En mon nom. Est-ce que vous voyez? Le monde a besoin de voir que quand deux personnes viennent ensemble et ils font une alliance, que c'est une alliance qui est perpétuelle, une alliance ne peut pas être brisée sauf par la mort. Une alliance. Et Dieu a fait une alliance avec nous. Jésus a dit, il a pris la coupe, il a dit, voici la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Et l'alliance qu'il a fait avec nous, c'est une alliance éternelle. Il ne peut pas la briser. Quand Jésus a fait un vœu, on dit, je vous prends comme mon épouse, c'est pour l'éternité. Et c'est pourquoi... Et je suis un peu ému. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, le monde a tellement besoin de voir un homme et une femme en Jésus, en train de dire, je te donne ma vie, et c'est réciproque. Je te donne ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est à toi maintenant. Nous ne faisons plus deux. Jésus a dit, ils ne font plus deux, mais ils sont un. Inséparables. Le monde a besoin de voir la constance, la persévérance, la fidélité. Ils ont besoin de voir les mariages qui sont longs et heureux. Les chrétiens devraient avoir le plus de fun. Les meilleures vies sexuelles, ça va être chez les chrétiens. Nous connaissons celui qui a créé le sexe. Amen. Toutes ces choses. Dans tous les domaines, on devrait avoir le meilleur. On ne parle pas d'une « Oh oui, c'est dur, c'est difficile, mais on va toffer pendant des années. » Non, le monde a besoin de voir. Hé, hey, regarde, ils sont vraiment en amour. Ça va faire 20 ans, le mois de juin, ça va faire 20 ans qu'on s'est mariés. Moi, je suis plus en amour avec mon épouse aujourd'hui que jamais. Je la trouve plus belle que jamais. Je l'aime, on se connaît plus que jamais. On s'aime. Et le monde a besoin de voir la puissance et la profondeur d'une alliance. Et s'il voit d'abord ici sur la terre avec une image vaut mieux que mille mots. S'ils voient dans les mariages, ils vont être capables de comprendre. Tu sais, de la même façon que j'aime mon épouse, Dieu t'aime et encore plus. Mais si je change d'épouse à chaque 5 ans, et je dis, tu sais comment j'aime mon épouse, Dieu t'aime encore plus. Mais j'espère bien. Il y a une révérence que le mariage soit honoré de tous. Sachez que le mariage est sous l'attaque. Ce n'est pas votre mariage qui est sous l'attaque, c'est l'image de Dieu qui est sous l'attaque. C'est témoignage.
l'image de Dieu, c'est la réputation de Dieu qui est sous attaque. Et à chaque fois que le diable réussit à diviser en eux, il rit dans la face de Dieu. En une image de plus qui disparaît, disparue. Le diable ne veut pas qu'à chaque place que le monde voit, regarde, il voit l'image de Dieu, l'image de Dieu, l'image de Dieu, l'image de Dieu. C'est pas ça que le diable veut. Il veut le contraire. Jésus a écouté ceci à propos d'une alliance. Et si les hommes et les femmes qui vont servir la communion sur la terre aimeraient venir et commencer.